cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Son tierra menuda, otros la raíz del trigo, otros son piedras dispersas en la orillita del río. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuántas veces, más allá del sembradío, en la fragua de las tardes, fueron a templar su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Misión del hombre, nieve, sol y sacrificio, morir sembrando la vida, vivir templando su grito. Campesino, campesino, por ti canto, campesino. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, nunca muertos si dormidos. Cuando vayas a los campos, no te apartes del camino, que puedes pisar el sueño de los abuelos dormidos, nunca muertos si dormidos, nunca muertos si dormidos. Campesino, campesino, por ti canto, campesino, por ti canto, campesino.
Donc on reçoit aujourd'hui Grégory Lassalle, reporter, et Vincent Espagne, chercheur, à propos de l'extraction des hydrocarbures non conventionnels en Argentine, et qui ont participé à la publication d'un livre qui s'appelle « La passion du schiste, capitalisme, démocratie, environnement en Argentine », publié par le CETIM. Alors du coup, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce livre ?
Ce livre, il nous est venu, d'abord bonjour, bonsoir.
Bonjour.
Ce livre, il nous est venu du constat qu'on a fait sur l'extraction de cet hydrocarbure non conventionnel en Argentine. C'est le deuxième producteur au monde après les États-Unis. Et Grégory, ayant séjourné là-bas pendant très longtemps, il a pu, sur le terrain, voir ce que ça provoque en transformation sociale, transformation environnementale, des paysages, des relations entre les gens, la manière dont les différents acteurs et protagonistes sont en relation ou en conflit. Et la question qu'on s'est posée, c'est il y a un soutien politique très très fort à cette industrie. Est-ce que le modèle économique et industriel développé en Argentine autour de cette activité peut se transposer ailleurs dans le monde, et notamment en Europe, où on a aussi des gisements d'hydrocarbures non conventionnels?
Juste sur ce livre, est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu comment il a été créé, qui écrit dans ce livre et d'où est tiré ce livre en fait ?
Donc l'idée d'écrire ce bouquin, ça a été, donc ça a commencé en 2013. Moi je suis parti là-bas avec les Amis de la Terre, avec l'association les Amis de la Terre pour faire un documentaire. Donc en tant que caméraman. Et bien sûr, je me suis retrouvé donc au milieu de cette activité, au milieu de cette industrie. C'était assez impressionnant. Et comme disait Vincent, c'est vrai qu'on sait que c'est une industrie qui va arriver fort rapidement au niveau mondial. Donc on pensait que c'était intéressant d'expliquer ce qui s'y passait et après de partager cette information. Donc j'ai contacté le CETIM, donc la maison d'édition en Suisse, qui a été d'accord pour m'accompagner sur ce projet. Et je me suis entouré de chercheurs, donc Vincent ici qui connaît bien la thématique suite aux mobilisations en France depuis 2011. Et aussi on s'est associé à un collectif de chercheurs qui est à Buenos Aires, qui est entre Buenos Aires et la Patagonie, qui s'appelle l'Observatoire du Pétrole Sud, OPSUL. Et voilà, qui connaît très bien la thématique, qui travaille dessus depuis plusieurs années. Et donc on a travaillé sur ce bouquin, ça nous a pris presque un an et demi, deux ans de terrain pour arriver à le sortir.
D'accord, c'est un livre qu'on peut lire en français là. Est-ce que tous les textes ont été écrits en français ou il y a certains textes qui ont été écrits dans d'autres langues? Qui est-ce qui a écrit et comment ça s'est passé pour le publier en français maintenant?
Ben, dans la mesure où les co-auteurs sont francophones pour deux d'entre eux et puis hispanophones pour nos amis de Obsour à Buenos Aires, ben, les textes français ont été traduits en espagnol et les textes espagnols traduits en français par des traducteurs professionnels. Et donc le livre est disponible aujourd'hui en français dans tous les rayons des bonnes librairies militantes et généralistes. Et en espagnol dans quelques semaines, puisque le CETIM a prévu une publication en espagnol et donc à diffusion d'un public au-delà du public argentin, des lecteurs argentins, mais aussi dans les pays d'Amérique latine, notamment au Mexique, où il y a des gisements d'hydrocarbures non conventionnels, où on a commencé l'exploration de ce gaz.
Avant de se pencher plus sur la technique et sur ce que c'est que l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, peut-être que Grégory, tu peux nous expliquer un petit peu le contexte géographique de où tu dis que tu es parti là-bas. Mm-hmm. C'est où là-bas et qu'est-ce qui s'y passe?
Bien sûr. Donc je crois que c'était en 2011 que le secrétariat à l'énergie des États-Unis a publié un rapport dans lequel il y avait été effectivement mentionné Vaca Muerta comme étant la zone, enfin le gisement où il y avait, je crois, les deuxièmes réserves de gaz et les quatrièmes réserves de pétrole de schiste de la planète. Donc là, on est au milieu de l'Argentine. Si on a une carte de l'Argentine, on est au milieu de l'Argentine. On est au nord de la Patagonie, dans la province qui s'appelle Neuquén. Et c'est une zone alors qui est très connue principalement par les touristes français, parce que c'est là qu'il y a, près de la cordillère des Andes, Bariloche, San Martín de los Andes, donc toute la cordillère où les gens partent faire des marches. Mais par contre, quand on se resitue vers le centre de la province, c'est un paysage très désertique, où il y a très peu de végétation. Il y a deux cours d'eau qui part de la cordillère des Andes et qui traverse les zones pétrolières avant d'arriver vers les principaux centres urbains de la province. C'est la ville de Neuquén qui a 200 000 habitants. Et ces cours d'eau ensuite continuent leur route vers les régions fruticoles. Donc c'est là-bas qu'on produit la poire Williams, qui est connue un petit peu en Europe. Voilà, donc ça c'est le théâtre du gisement de Vaca Muerta. Je souhaiterais mentionner deux choses d'un point de vue politique assez important. C'est que quand on étudie la question en Argentine, on est obligé de prendre en considération à la fois le pouvoir politique national, c'est-à-dire le pouvoir central à Buenos Aires, et à la fois le pouvoir local provincial. Donc au niveau provincial, on a un parti qui s'appelle le Mouvement Populaire de Neuquén, qui a le pouvoir depuis 60 ans, c'est une hégémonie dans la province. Et on ne peut pas comprendre le développement du gisement et l'intérêt provincial à développer le gisement sans comprendre la volonté de ce parti provincial de consolider son hégémonie et donc de reproduire son pouvoir. Parce qu'il est à la fois dans la sphère politique et dans la sphère économique. D'un point de vue national, ce qui est intéressant avec Vaca Muerta, donc avec ce gisement, c'est qu'il s'est développé pendant un gouvernement dit de gauche. On s'inscrit dans la grande vague de gouvernements progressistes d'Amérique latine. Et l'Argentine, bien sûr, fait partie de ce mouvement avec toute la première décennie du 21e siècle où c'est la famille Kirchner. Donc d'abord Néstor Kirchner qui a eu le pouvoir et ensuite sa femme, donc Cristina Fernández de Kirchner. Et donc pendant trois mandats, ils ont mis en place une politique beaucoup plus progressiste avec une réelle redistribution des richesses, etc. Un des principaux griefs de cette politique, c'est qu'il y a eu une continuité de l'exploitation et de l'exportation des matières premières, qui a provoqué, pas seulement en Argentine mais partout ailleurs, de très nombreux conflits socio-environnementaux. Et si je mentionne ça, c'est parce que tous les militants, donc le kirchnérisme bénéficiait d'un grand appui populaire, au début de Vaca Muerta, tous les militants de gauche, enfin la plupart des militants de gauche, appuyaient les politiques gouvernementales et donc appuyaient ce développement. Pourquoi ? Parce que le gouvernement argentin, enfin en Argentine, il y avait un déficit très important de la balance commerciale et Vaca Muerta était vu comme la solution, l'espoir de l'Argentine pour récupérer son indépendance d'un point de vue énergétique.
Parce qu'il faut dire aussi que l'Argentine a une économie basée sur les énergies, les hydrocarbures depuis déjà quelques décennies en fait.
Ouais, c'est ça. Bah, depuis le temps du général Perón, il y avait YPF, l'entreprise nationale argentine, a été un peu une sorte de symbole, une sorte de moteur aussi du développement industriel du pays et un symbole aussi de l'Argentine en développement des années 30, qui était un pays à ce moment-là assez puissant. Et cette activité, donc l'entreprise pétrolière, a été privatisée dans les années 90, au moment où il y avait donc la présidence de Carlos Menem et la mise en place de toutes les mesures liées au consensus de Washington. Et donc la renationalisation d'YPF à la fin donc en 2012 a été vue vraiment comme un espoir, vraiment un espoir nationaliste très important par la population argentine.
Ouais. Est-ce que justement tu peux nous parler de cette nationalisation et du problème que pose l'exportation en fait, parce que tu parlais de la balance commerciale, mais on peut se dire s'il y a une nationalisation, c'est fait pour le marché intérieur. Est-ce que tu peux nous parler un peu de cette problématique-là ? Parce que tu nous parlais d'exportation, alors que bon, globalement, on se dit si on nationalise quelque chose, c'est fait pour satisfaire les besoins, d'un pays.
En fait, ce qui prévaut dans tous les pays qui disposent de gisements d'hydrocarbures, conventionnels ou non conventionnels, mis à part les pays arabes, c'est ce qu'on appelle la souveraineté énergétique. C'est-à-dire qu'il faut à tout prix, par tous les moyens, tenter de s'affranchir des importations. Et donc la politique en Argentine, elle est la même que celle des États-Unis ou la même que celle de certains pays européens. En Europe, c'est plus compliqué, mais c'est d'abord satisfaire les besoins locaux, nationaux, les besoins domestiques et les besoins industriels, avant d'exporter. Aux États-Unis, même la situation elle est particulière, puisque aux États-Unis, il a fallu transformer la loi d'un certain nombre d'États fédéraux où l'exportation était interdite. Il fallait d'abord consommer intérieurement. Avec l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, le volume de production est tel que les producteurs américains peuvent aujourd'hui, avec une modification juridique, exporter vers l'Union européenne.
Alors juste quand tu dis américain, c'est états-uniens ou c'est les Amériques ?
C'est états-uniens. Le Canada, c'est la même chose. Au Canada, on exploite un hydrocarbure non conventionnel qui est une saloperie infinie, les schistes bitumineux. Je ne sais pas si vous avez vu les images du nord du Canada, dans l'Alberta, où on a rasé la forêt primaire sur des milliers de kilomètres carrés pour exploiter un hydrocarbure qui affleure. Donc bien évidemment, le dégât environnemental est absolument irrémédiable. Jamais la forêt ne repoussera. Mais c'était d'abord, dans un premier temps, pour satisfaire les besoins en énergie canadiens. Mais la production est telle que maintenant, avec Keystone, avec ce projet d'oléoduc qui traverse l'Amérique, les Canadiens peuvent exporter. En Europe, la situation elle est différente. En Europe, on a des gisements d'hydrocarbures non conventionnels sous nos pieds, qu'on ne peut pas exploiter pour différentes raisons. Il y a des moratoires, des interdictions de la technique. Et donc, on est très dépendant de nos importations. Un des principaux fournisseurs de gaz pour l'Union européenne, c'est Gazprom, c'est le gaz russe, ukrainien et russe. Et donc, à tout prix, on cherche à s'affranchir, pour des questions géopolitiques, de cet approvisionnement. Donc, on a deux sources possibles. Il faut savoir que, par exemple, 80% du gaz algérien est consommé par l'Union européenne. Donc du coup, à travers des accords de libre-échange et des négociations bilatérales entre l'Union européenne et un certain nombre de pays du Maghreb, par exemple, on cherche à se garantir notre approvisionnement en énergie, enfin en gaz et en pétrole provenant du Maghreb.
Oui, je voulais juste demander, avant que tu nous expliques un peu peut-être plus sur l'Argentine, les questions d'exportation ou de consommation intérieure, est-ce que vous pouvez juste nous faire un petit aperçu de les hydrocarbures non conventionnels ? On en parle depuis le début, peut-être juste expliquer en deux mots ce que c'est.
D'accord, c'est important. Alors l'hydrocarbure conventionnel, lui, c'est gaz ou pétrole. Quand on dit hydrocarbure, c'est gaz ou pétrole tout confondu. Il est compris dans ce qu'on appelle une roche réservoir. Donc l'hydrocarbure, il se forme dans la roche mère. Ce sont des couches de sédiments qui sont empilées les unes sur les autres depuis des millions d'années et qui, avec la pression et la chaleur, bah, petit à petit fermentent et produisent donc de l'hydrocarbure. Cet hydrocarbure, il est de la roche mère, il va migrer vers des roches plus perméables jusqu'à rencontrer une couche d'argile et donc constituer une poche dans laquelle il suffit de faire un trou, un forage à la verticale. On installe une pompe en tête de puits et puis on pompe jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. Ça, c'est les hydrocarbures conventionnels. Le non conventionnel, l'hydrocarbure est resté piégé dans la roche mère, parce que, enfin, dans certaines roches mères, et en particulier en ce qui concerne le gaz de schiste, donc dans une roche karstique, hein, dans du schiste, qui est une roche avec comme une éponge, avec plein de petits trous à l'intérieur, plein de petites pores, mais qui ne sont pas perméables. Les pores ne communiquent pas les unes avec les autres. Donc le gaz ou l'huile, enfin le pétrole, est donc piégé dans cette roche. Pour donc accéder à cette roche, il faut, et donc libérer les hydrocarbures qui sont compris dedans, et ben il faut la fraquer, il faut la casser. Donc on utilise une technique très particulière, dite de la fracturation hydraulique. Au lieu de faire un forage horizontal et puis de vertical et de s'en contenter, on fait un premier forage vertical et ensuite on dévie ce forage avec plusieurs brins de manière horizontale. Donc en vertical, on va de 1500 à 2500, 3000 mètres de profondeur. En horizontal, on va de 1500 à 3000, voire beaucoup plus en longueur. Et puis on injecte à très forte pression d'énormes quantités d'eau, donc à 300 bars, et on injecte jusqu'à 15 millions de litres d'eau par fracturation, dans lequel on met du sable. On mélange du sable pour maintenir les petites fracturations, les petites fissures, les maintenir ouvertes et permettre au gaz de se libérer, au gaz ou à l'huile. Et puis un adjuvant, un cocktail d'adjuvants chimiques qui servent à tout un tas de choses, lubrifiants, acidifiants, biocides, etc. Ce qu'on a découvert quand on a commencé à travailler sur ces fluides de fracturation, c'est que ces adjuvants sont des poisons extrêmement violents. Ce sont pour beaucoup d'entre eux des dérivés de toluène et benzène, et ce sont ces produits chimiques qu'on qualifie aujourd'hui de perturbateurs endocriniens. Je ne sais pas si, enfin, un certain nombre d'auditeurs auront le souvenir de ces images de l'eau du robinet qui s'enflamme chez un paysan américain dans le film de Josh Fox, Gasland. C'est vrai que dans le film, on voit des personnes et des animaux malades et donc avec des symptômes qui sont tout à fait liés à l'empoisonnement au benzène ou au toluène. Ça, c'est des dégâts immédiats. Par contre, les dégâts sur la santé humaine, d'un point de vue des perturbateurs endocriniens, on va pouvoir les mesurer que dans 10 à 15 ans. D'accord. L'autre effet qui est important, c'est le fait que un forage, quel que soit d'ailleurs le type de forage, conventionnel ou non conventionnel, n'est jamais étanche à 100%. Donc à partir du moment où on injecte dans le forage un flux de fracturation avec des produits chimiques, on prend deux risques. Le premier, c'est qu'on va perforer des nappes phréatiques empilées les unes sur les autres, avec des couches de roche entre les deux. Nous puisons l'eau agricole ou l'eau potable dans les nappes qui sont les plus proches de la surface, mais dans les nappes qui sont plus profondes, elles sont naturellement pleines de métaux lourds et de matières radioactives. C'est le lavage naturel que fait la nature depuis des milliers d'années, millions d'années. Et que donc, en perforant ces nappes phréatiques, les eaux peuvent se mélanger à travers les fracturations, à travers les mini-fractures, les mini-failles, et donc du coup, rendre les nappes en surface dans lesquelles on puise notre eau totalement impropre à la consommation. Premier risque. Et deuxième risque, c'est les fuites de flux de fracturation, et donc de faire en quelque sorte de, hélas, mélanger, enfin trouver dans les eaux de consommation, dans l'eau potable ou l'eau agricole, ces produits chimiques qui ont été injectés dans les forages. Donc le risque est très important.
On verra notamment tout à l'heure les conséquences que ça a sur les populations alentour en Argentine et
ailleurs
que ça peut
monde.
Avoir en Europe de la même manière.
Et du coup, on se demandait qui étaient les différents acteurs de tout ça. Alors il y a les entreprises pétrolières, il y a l'État, il y a les acteurs du coup qui utilisent cette industrie-là ou la mettent en place en tout cas. Et puis les populations autour qui ça touche, qui est impliqué dans tout ça, quoi.
Juste avant que Grégory réponde à cette question qui est importante, il faut savoir une chose, c'est que quand le gouvernement Macri, donc le dernier gouvernement élu en ce moment en Argentine, a décidé de reprivatiser YPFE, le gouvernement Macri n'a fait ni plus ni moins que de répondre à ce qui est demandé dans le cadre des accords multilatéraux de libre-échange. C'est-à-dire que c'est insupportable pour les entreprises privées le fait que, c'était le cas en Algérie par exemple, ou en Tunisie, le fait que c'est l'État qui possède une majorité des entreprises pétrolières. Il faut que libérer les investisseurs, et donc qui est là, il y a une espèce de mécanique politique qui fait que les acteurs ont complètement changé de manière très très rapide.
De toute façon, on peut voir, c'est vrai, un mélange des genres, bien sûr, comme ici dans la sphère politique et dans la sphère économique, où on voit des gens qui passent à la fois, d'abord un temps au niveau politique, et après un temps dans le secteur privé. Mais effectivement, les principaux acteurs, il y a donc le gouvernement central argentin, qui est celui qui a fait la promotion internationale du développement du fracking, qui a aussi mis en place une campagne de communication très importante pour arriver à convaincre les Argentins des bienfaits de cette activité. On a aussi YPF, donc l'entreprise nationale argentine, qui vient d'être, enfin, donc 51% du capital a été nationalisé donc en 2012.
Alors juste une toute petite parenthèse, on dit YPF, si vous cherchez des informations là-dessus, ouais. Ça s'écrit YPF.
C'est ça, ouais, c'est ça. Yacimientos Petroleros Fiscales en espagnol. Et donc du coup cette, ce capital, cette mainmise sur cette entreprise permet à l'État argentin de planifier l'exploitation d'hydrocarbures, comme je disais tout à l'heure, et d'éviter d'importer notamment du gaz bolivien. Donc ça, c'est un deuxième acteur assez important. Le troisième acteur, c'est bien sûr, ce sont les multinationales étrangères, qu'elles soient nord-américaines ou européennes. Et là, il y en a différents styles. Il faut savoir que l'exploitation des hydrocarbures non conventionnels, c'est une activité qui est très très chère, surtout dans un gisement comme Vaca Muerta qui est nouveau, où les entreprises cherchent encore le modèle qui rendra cette activité rentable. Et donc l'alliance avec les multinationales nord-américaines principalement est indispensable. Donc ça a été quelque chose de politiquement très difficile à faire passer pour le gouvernement argentin auprès de ses militants qui sont plutôt de gauche, plutôt dans une géopolitique, plutôt prêt à appuyer Chavez qu'Obama ou M. Trump. Mais cette alliance est indispensable pour la question financière, mais aussi parce que ce sont les entreprises nord-américaines, principalement européennes, qui possèdent la technique de la fracturation hydraulique, donc comme disait Vincent, qui est utilisée sur ce type de gisement. Ensuite, on a d'autres acteurs. Il faut savoir que l'industrie non conventionnelle, donc pour produire, pour mettre en exploitation du gaz et du pétrole de schiste, on a besoin de beaucoup plus d'énergie et de beaucoup plus de matériaux que dans l'industrie conventionnelle. Donc on peut voir graviter autour de Vaca Muerta, donc autour de ce gisement, tout un ensemble d'entreprises de services pétroliers. Là plutôt lié en général aux bourgeoisies nationales, aux bourgeoisies provinciales qui acheminent du matériel, des travailleurs, etc. Donc il y a un réel boom économique dans cette région. Et ce boom économique, il n'est pas seulement sur la question des services pétroliers, il est aussi sur la question des infrastructures. Donc on voit un développement très massif des routes, mais aussi de tout ce qui va avec le style de vie pétrolier, c'est-à-dire les shopping centers, les casinos, les hôtels de luxe, etc. etc. Donc il y a un réel boom là-bas, et il y a le secteur pétrolier qui est là, mais il y a effectivement aussi tous ces secteurs annexes qui sont présents dans la région.
Qui va avec une explosion de la population aussi. La population...
La population augmente, ouais.
Il y a un vrai boom démographique aussi.
Effectivement, alors il y a un boom, donc on est dans une province où il y a environ 400 000 habitants. Et c'est vrai qu'il y a un boom démographique assez fort. Quand j'étais là-bas en 2013, donc c'était la première année du développement du gisement, il y avait environ 8 à 9 travailleurs migrants qui arrivaient tous les jours. Ouais. Donc du coup, c'est intéressant, même quand on a la position d'être critique de ce système, d'observer ces gens qui traversent le pays, un peu comme à l'image des migrants ici, hein, qui traversent... des territoires et qui se rendent dans un endroit dans le but de rencontrer aussi leur place dans leur Eldorado, d'avoir un bon salaire, de trouver une place dans le pétrole, etc. Donc il y a ces travailleurs migrants-là, ceux qui veulent entrer dans le pétrole, ceux qui veulent travailler dans la construction. Il y a aussi des gens simples qui arrivent avec un camion, 20 légumes et qui veulent vendre des légumes au bord de la route. Il y a aussi les travailleurs sexuels qui peuvent venir du nord de l'Argentine ou de Bolivie, Paraguay, etc. Donc effectivement, il y a une arrivée massive, pas seulement des capitaux et des multinationales, mais aussi de personnes qui sont en recherche d'une vie meilleure.
Et de gens, du coup, qui veulent vivre directement ou indirectement de cette industrie-là. Ce qui va poser, peut-être on en reparlera plus tard, mais ce qui posera la question aussi sur les résistances, parce que forcément, la population augmente avec... une grosse partie de cette population, du coup, qui dépend directement de cette industrie, en fait.
Ouais, c'est exactement ça. C'est vraiment un gros problème au niveau de la résistance. Là-bas, on y reviendra peut-être, comme tu disais tout à l'heure, mais à la fois les gens qui habitent à Neuquén, qui ont une tradition pétrolière, comme tu le mentionnais, que ceux qui arrivent, il y a une sorte de consensus d'accord social sur la question de l'exploitation des hydrocarbures conventionnels qui pose beaucoup de problèmes à ceux qui veulent résister.
De nuevo nuestra tierra. Las oleoductos y pozos, sangre agua al mapa abierto. No importan las regalías si nos dejan un desierto.
Des différents acteurs et notamment des protagonistes politiques et économiques, on a l'impression qu'ils sont très très imbriqués, et notamment tu parlais du fait que l'extraction de gaz et de pétrole de schiste était une activité très chère. Il y a eu des décisions politiques qui ont été faites pour favoriser aussi ça, notamment sur l'importation de matériel, non ? Tu peux nous en parler un petit peu ou...
Alors c'est un peu compliqué en Argentine, parce qu'importer des technologies, du matériel, c'est pas évident. Ça passe beaucoup de temps, je crois que les pétroliers disent « Oui, mais nos machines, elles passent des semaines, des mois entiers à l'aéroport de... Enfin, non, pardon, au port de Buenos Aires avant de pouvoir arriver. » Mais c'est vrai que le gouvernement argentin, donc il a, quand il a récupéré YPF, donc l'entreprise de pétrole, il a exproprié Repsol, l'entreprise espagnole, ce qui est un très mauvais signal au niveau international pour les investisseurs, pour les multinationales. Mais à travers tout un tas de législations, telles que ça se fait ailleurs, hein, où on veut faciliter l'arrivée d'investissements, il a mis en place un cadre légal qui est complètement propice pour les multinationales. Je ne sais pas exactement, je ne me rappelle plus exactement dans les détails ces modifications du cadre légal, mais grosso modo, maintenant, les multinationales peuvent exporter une partie de leur rente et elles peuvent aussi exporter une partie des hydrocarbures produits, ce qui était interdit avant, tel que l'avait mentionné Vincent.
Et puis il y a une chose, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que ces pays fortement protectionnistes avec une réglementation fiscale et douanière importante empêchaient l'arrivée du matériel, des produits chimiques, etc., qui viennent pour la plupart d'entre eux de technologies américaines. C'est Schlumberger et Halliburton qui alimentent, qui accompagnent les pétroliers et gaziers avec leur technologie. À partir du moment où il y a une levée de ces contraintes, et c'est ce qui se passe dans la moulinette des accords multilatéraux sur le libre-échange, et ben si les États s'alignent sur le moins 10 ans en termes de protection fiscale et douanière, et ben c'est tout bénef pour les investisseurs et les importateurs, entre guillemets, de technologie. Il y a une autre chose qui est importante aussi, c'est que les brevets, il y a une spéculation en fait sur la matière grise, au sens sur l'intelligence humaine. La technique de la fracture ancienne hydraulique existe depuis très longtemps. Ce qui évolue, c'est la mécanique précise des têtes de forage, et puis la composition des flux de fracturation en fonction de précision géologique. Et donc ce sont des brevets détenus par des transnationales américaines et européennes, avec d'énormes investissements en termes de recherche. Et donc systématiquement, à côté enfin, en lien avec une entreprise pétrolière ou gazière, on citait Total, Chevron, Repsol, Shell, Eni et d'autres, eh ben, il y a toujours une société très importante qui, elle, développe la technologie et met donc à disposition ses brevets. Et que les pays qui disposent de gisements, mais qui n'ont pas en interne de quoi développer ce type de technologie, en termes de recherche, ben, sont complètement dépendantes de cette mécanique de brevets.
Et je voyais notamment que, du coup, le gouvernement argentin, j'ai retrouvé ça dans mes notes, en 2013 avait décidé de l'annulation de la taxation en fait de l'importation d'équipements pour pouvoir extraire du gaz de Chine.
Il y a même une instance dite Eurolat qui est une assemblée de parlementaires issus de Mercosur, donc la zone de libre-échange sud-américaine et de l'Union européenne, et qui négocie en permanence à raison de deux réunions annuelles plus des commissions de travail, qui négocie un accord de libre-échange entre l'Union européenne et le Mercosur.
D'accord. On a beaucoup parlé des protagonistes un peu en haut de l'échelle, les multinationales, les acteurs économiques et les acteurs politiques. Peut-être que tu peux nous expliquer un petit peu plus d'un point de vue de la vie là-bas, quelles sont les résistances, qui sont les personnes qui travaillent pour ces multinationales-là, qui sont les personnes qui résistent, qui sont les personnes qui sont en fait impactées par cette activité-là.
Ouais, ce panorama, il prendrait pas mal de temps, mais c'est vrai qu'il est important. Moi, mes principaux objectifs dans ce bouquin, c'était de suivre justement la vie des gens. Donc, du coup, j'ai passé beaucoup de temps, que ce soit à Neuquén, qui est la capitale administrative et financière de la province, que dans le village d'Agnello. Alors Agnello, c'est un petit village qui est en bordure du gisement. Donc, ce qu'on n'a pas mentionné, c'est que la première concession qui a été exploitée, elle est exploitée actuellement conjointement par YPF et par Chevron. L'entreprise américaine qui a fui les tribunaux équatoriens après avoir pollué 500 000 hectares de la forêt amazonienne et se retrouve aujourd'hui donc en Argentine pour développer les hydrocarbures conventionnels. Donc ils exploitent tous les deux une concession et proche de cette concession, il y a un petit village qui est un village patagon, donc un village où il y a des commerçants et des éleveurs principalement d'ovins et qui est en train de se transformer en base opérative du gisement. C'est-à-dire que le modèle économique n'est pas forcément rentable et un des objectifs de l'industrie actuellement c'est de réduire les coûts de production. Donc il faut rapprocher les matériaux, il faut rapprocher les travailleurs de la concession d'exploitation. Donc ce petit village, il est en constante transformation et c'est vrai qu'on observe vraiment un monde à deux vitesses là-bas, mais même en général dans la province, hein, c'est-à-dire d'un côté la dure vie, laborieuse vie paysanne dans ce contexte semi-désertique de la steppe, etc. Et d'un autre côté, le capitalisme argentin, la spéculation sur les matières premières avec cette avidité, des très importants déplacements de camions. On notait donc dans ce petit village de 6000 habitants qu'il y avait environ entre 4000 et 5000 camions qui passaient tous les jours. Donc c'était quelque chose d'assez impressionnant. Et ce qu'on peut observer effectivement, donc, c'est ce côté de monde à deux vitesses dans la province. Déjà sur la question financière, c'est-à-dire que les pétroliers ont des salaires assez importants. Donc on observe donc une pression et une inflation immobilière assez importante qui fait que beaucoup de populations sont obligées de se déplacer en périphérie des villes, comme un peu partout hein, sur d'autres questions, et donc se rapprocher à la fois des zones d'exploitation, donc ils se rapprochent des puits de pétrole, ils sont de plus en plus près des puits de pétrole, certains vivent au milieu des puits de pétrole, et aussi des zones où on traite les déchets pétroliers. Ça, c'est une autre thématique dont pourra peut-être parler Vincent tout à l'heure, mais il y a un important volume de déchets qui sont créés par cette activité qu'il faut traiter, qui en général est brûlé. Et donc, on a beaucoup de populations pauvres, souvent sans sécurité juridique, sans titre de propriété, qui vivent près de ces zones.
Excuse-moi, juste ces populations pauvres-là, c'est des populations qui, du coup, ne travaillent pas pour cette industrie. Puisque tu disais les salaires sont élevés dans l'industrie pétrolière. Est-ce que c'est aussi seulement pour les ingénieurs, les cadres et tout, et ou est-ce qu'il y a aussi une classe laborieuse un peu prolétaire de cette industrie-là qui du coup gagne pas grand-chose et est logée auprès de cette industrie ou c'est d'autres gens
En général, l'industrie se débrouille d'avoir quelques personnes qui travaillent pour elle dans les quartiers proches. Parce que c'est vrai que c'est un argument et on voit beaucoup de divisions au niveau de la population entre ceux qui disent va brûler tes déchets pétroliers plus loin parce qu'il y a une règle au niveau de la province, normalement ça devrait être à 6 km des zones urbaines, et ceux qui disent non, non, qu'ils s'en aillent pas parce que ça nous permet d'avoir du boulot, etc. Donc il y a toujours quelques personnes, même dans les quartiers pauvres, ouais. qui travaillent dans l'industrie. C'est très compliqué la résistance à Neoken. Donc il y a ces gens qui critiquent donc la proximité donc de ces usines. Il y a des gens qui critiquent le modèle. Mais on est dans un système où, je vous parlais du parti provincial tout à l'heure, la rente est utilisée par ce parti pour payer des fonctionnaires. Donc on est dans une province où il y a, je ne sais plus le chiffre, mais 25-30% de fonctionnaires.
Je crois que c'était 45% même. Ouais. Moi j'ai vu ça, ouais.
Dans certains cas, donc c'est assez impressionnant. Et des fonctionnaires qui, s'il y a un changement politique, ils risquent de perdre leur place. Donc il y a une sorte de clientélisme assez impressionnant sur la question donc, des travailleurs, des fonctionnaires. Il y a un clientélisme aussi sur les appels d'offres, c'est-à-dire que toute cette rente est utilisée pour mettre en place des travaux, des infrastructures. Et qui c'est qui gagne ces appels d'offres? C'est en général la bourgeoisie liée au pouvoir provincial. Donc c'est très difficile de se mobiliser. On a quelques secteurs quand même qui le font. Il y a quelques syndicalistes, il y a les écologistes, il y a les Mapuches. Au niveau de la gauche, c'est principalement les trotskistes qui se mobilisent. Mais leur lutte est très, très compliquée. On a aussi des fruiticulteurs, parce qu'il y a une avancée du fracking dans les zones de fruiticulture dont je parlais tout à l'heure, qui se mobilisent. Pourquoi est-ce que c'est compliqué? Par exemple, je prends le cas des Mapuches, qui a priori sont ceux qui sont les plus radicaux contre l'exploitation. Les Mapuches, donc, ont été déplacés par tout un tas d'événements historiques et se retrouvent aujourd'hui sur les zones semi-désertiques de la province, avec en général des territoires relativement grands, mais assez laborieux, assez compliqués à utiliser d'un point de vue de la production et d'un point de vue de l'élevage. Ces populations n'ont pas été informées ni consultées, comme le dit la loi, au moment où sont arrivés les méga-projets, donc au moment où est arrivé le fracking sur leur territoire, et ils se retrouvent devant le fait accompli. Et là, il y a deux solutions, c'est soit tu résistes avec la possibilité de te faire enfermer, criminaliser, etc., soit tu négocies des petits avantages avec l'entreprise pétrolière, soit tu fais les deux. Et on se retrouve souvent dans cette situation où à la fois ils résistent, donc à la fois ils occupent les tours, à la fois ils font vraiment tout un ensemble de pressions au niveau international, et on relaie dans ce bouquin d'ailleurs les dénonciations, mais d'un autre côté ils sont obligés de négocier parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Ouais. Et donc ils récupèrent quelques sous de cette exploitation, histoire de ne pas être complètement non plus d'un don de la farce. Et donc ça c'est compliqué. Et deuxième chose qui est compliquée dans le cas des Mapuche, c'est que les enfants, au moment de se projeter dans un avenir professionnel, vu qu'il y a un déplacement des activités économiques et une imposition du pétrole, tu te projettes en tant que pétrolier. Ouais. Voilà, tu es enfant, tu vas te déscolariser parce qu'on n'a pas besoin de beaucoup d'études pour travailler dans le pétrole. Et tu vas espérer rentrer dans une entreprise de services pétroliers, etc. Donc il y a une transformation sociale qui est imposée. Et je vais finir là-dessus, c'est que la marge de manœuvre des populations qui vivent dans cette zone n'est pas énorme, quoi. Le pouvoir est tellement important, la position du système est tellement importante, qu'au moment de décider sur ta vie, sur tes choix, finalement, tu n'as pas beaucoup de marge de manœuvre. Et je pense que c'est pour ça aussi, principalement, qu'il n'y a pas beaucoup de résistants dans la province. Dernière chose, c'est contrairement à la France, où il y a eu des très fortes mobilisations, les territoires en Argentine sont compliqués à défendre parce que les territoires sont énormes et qu'il y a très peu de densité de la population. Ouais. Donc on peut difficilement imaginer qu'en France la résistance ne se fasse pas parce que c'est plus facile de défendre le territoire.
J'imagine que ce tiraillement-là aussi se retrouve chez les syndicats qui doivent à la fois, c'est l'éternelle question des syndicats, à la fois défendre le travail et l'emploi et du coup les conditions de travail et tout ça, et en même temps tu disais parce qu'il y avait des luttes syndicales contre ça, mais du coup est-ce que c'est vraiment contre cette industrie là ou c'est pour aménager cette industrie là ou voilà.
La question syndicale elle est très compliquée parce qu'on n'a pas du tout le même syndicalisme en Europe, en fait, tel qu'on connaît en France en tout cas et en Argentine. Les syndicats qui sont contre la fracturation hydraulique principalement, c'est plutôt des syndicats de travailleurs, de profs, etc. Les syndicalistes pétroliers, donc le syndicat pétrolier, un syndicat qui s'appelle le syndicat privé de gaz et de pétrole des Neoken, donc il y a 25 000 adhérents qui se représentent un peu les travailleurs, pas les cadres, mais les travailleurs de base de l'industrie pétrolière. C'est un syndicat complètement de droite qui appelé à voter pour le gouvernement néolibéral qui est au pouvoir actuellement parce que un accroissement de l'activité permettra plus d'adhérents, plus de travailleurs pétroliers, donc plus d'adhérents. Chaque adhérent paye 10% donne 10% de son salaire au syndicat. Et le syndicat est tenu d'une main de maître par un homme qui s'appelle Guillermo Pereira, qui est à la fois donc patron du syndicat, qui est à la fois donc néolibéral, qui est numéro 2 du parti provincial qui a le pouvoir depuis 60 ans, qui est sénateur national pour ce parti et qui est patron d'entreprise de services pétroliers. Donc quelqu'un qui a tout intérêt à ce que cette activité continue. Et donc être travailleur pétrolier, c'est finalement avoir une place dans cet Eldorado, mais c'est aussi appuyer complètement l'hégémonie en place actuellement dans la province.
D'accord. Du coup, au niveau de la lutte syndicale, il n'y a pas...
Dans le secteur pétrolier, il n'y a aucun débat. Et d'ailleurs, ça a été assez étonnant qu'aux dernières élections, donc Monsieur Pereira, donc ce syndicaliste, a appelé à voter pour le gouvernement néolibéral de Macri, en se tirant une balle dans le pied, parce que c'était le kirchnerisme, c'était la gauche qui avait vraiment mis en place, développé Vaca Muerta, donc qui avait permis aux syndicats d'avoir plus de travailleurs, à Pereira d'avoir plus de parts de marché pour ses entreprises de traitement de déchets, d'acheminement d'eau, de fracturation, etc.
Tu parlais de la projection dans l'avenir des gamins qui grandissent là et qui se voient uniquement travaillant dans le pétrole. Peut-être c'est dû aussi au fait que la fracturation hydraulique, en fait, elle a un impact territorial qui semble minime en surface peut-être par rapport à d'autres industries, à d'autres exploitations pétrolières, mais qui aussi pollue les eaux et en fait empêche toute autre activité autour puisque le bétail ne peut plus aller paître là où il allait habituellement et l'agriculture fruitière dont tu parlais. En fait, se retrouve pollué sans doute par les produits dont tu parlais tout à l'heure, Vincent, qui sont mis dans l'eau pour la fracturation.
Non, c'est exactement ça. Et je finis là-dessus. Après, je vais vous laisser. Je vous laisserai avec Vincent. On est dans un secteur au niveau donc de la fruiticulture qui a été développé dans la fin de la première partie du XXe siècle avec l'arrivée massive de migrants italiens, espagnols qui sont arrivés dans la zone. Il n'y avait rien, mais vu que c'était en bord de la rivière, ils ont mis en place le développement donc de poires et de pommes avec un système qui était déjà amené déjà lui-même à se casser la gueule, c'est celui de l'agro-exportation. Actuellement, il y a une crise de l'agriculture, il y a une concentration des exploitations. Et effectivement, on a découvert dans cette zone d'importantes présences donc d'hydrocarbures. C'est pas exactement du gaz et du pétrole schiste, c'est du Thai gas et du Thai oil. Vincent vous expliquera peut-être tout à l'heure ce que c'est, mais on a besoin aussi de la fracturation hydraulique pour les extraire. Et donc actuellement, dans un contexte où c'est très cher, enfin où le prix du pétrole est assez bas au niveau international, c'est plus facile pour les pétroliers d'aller exploiter ce Thai oil et ce Thai gas. Et donc on a une pénétration énorme du fracking sur ces zones fruticoles. Et c'est très compliqué à un paysan qui sait que la prochaine génération ne va pas reprendre son activité, qui a des difficultés à joindre les deux bouts, de résister à ces propositions sirènes de l'activité pétrolière, de l'industrie. Alors les contrats signés sont pas énormes. Hein. Louer 2 hectares à un pétrolier, c'est l'équivalent d'avoir un appart à Toulouse que tu loues à des personnes. Donc tu récupères 400-500 euros par mois. Donc c'est pas énorme. Mais les paysans te disent, moi ça me permet de joindre les deux bouts, et vu que tous les voisins le font aussi, ça complique la chose. Vu qu'actuellement avec le fracking, on peut avoir non seulement des trajectoires verticales mais aussi horizontales, le voisin, si le pétrolier exploite chez le voisin, il peut tout à fait aller chercher dans les réserves qui sont sous ma terre. Donc une activité, une industrie qui est en train de se tirer une balle dans le pied. Je ne sais pas ce qui restera dans 15 ans d'activité fruticole de cette zone, qui a représenté tout un espoir de vie. Et c'est vrai que quand on suit un peu les trajectoires humaines, on peut voir des fois la détresse un peu de ces paysans qui d'Europe, qui ont tout construit là, et qui se rendent compte qu'aujourd'hui, tout est en train de se casser la gueule. Et attention, parce que c'est ce qui peut un peu nous pendre au nez ici, si on a une agriculture en crise, et si on ne fait pas attention.
Je voyais quand même que dans les années 90, il y avait déjà des luttes et des blocages de routes, notamment, je voyais une technique qui s'appelle El Piquete, de blocage de route, je ne sais pas exactement en quoi ça consiste. Est-ce que c'est pour empêcher les machines de venir forer? Est-ce que c'est quoi? Tu connais un peu ou...
Piqueteros. Ben ça, c'était au moment de la crise économique de 2001. Donc, effectivement, quand il y a eu la privatisation d'IPFE dans la région, bon, ce n'est pas exactement la zone fruticole, mais dans une autre zone qui s'appelle Cutralco. Donc, il y a eu la privatisation d'IPFE. Donc, tout un ensemble de gens ont été mis à la porte. Ils ont récupéré 2-3 sous. Tout le monde a ouvert des épiceries. Il y a 50 000 épiceries à Cutralco, et à un moment il y a une crise économique assez forte et donc ils ont décidé de faire des blocages. Donc le piqueté, c'est un blocage de route très important, relativement violent et très déterminé. Donc c'est vrai que c'est une mesure utilisée par les travailleurs, soit pour revendiquer des choses assez importantes, le travail, etc., des aides sociales, soit pour demander des places de travail. Donc voilà.
Ça, c'était il y a 15 ans, mais du coup, est-ce que c'est des techniques qui sont toujours utilisées aujourd'hui contre les hydrocarbures non conventionnels?
Ben là, c'était utilisé pour avoir du travail. Hein. Donc, ouais. C'était vraiment quelque oui, chose d'accord. d'un peu différent. Mais non, les techniques utilisées actuellement et, par les Mapuches, c'est l'occupation des tours. Ensuite, c'est la dénonciation, c'est la conscientisation. On en est là, quoi. C'est, actuellement, la lutte en Argentine, c'est défendre certains territoires. Défendre les zones naturelles, défendre quelques communautés Mapuches, défendre les quartiers pauvres et essayer de défendre la fruiticulture. Mais c'est assez compliqué.
Wetatungu, aklif grufmu. Layelun, 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 yiwentupunyen. Layelun, 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 yiwentupunyen. Langun tefe, langun tefe nye, langun tefe, langun tefe nye, fe wingalun kutraru. Langun tefe, langun tefe nye, langun tefe, langun tefe nye, fe wingalun kutraru. Timu ama Wathanuma, fey winkalun kutraru. Lang tefe, fey winkalun kutraru. Lang tefe, fey winkalun kutraru. Nipunyen, wantu amai. When to a mighty mapun, fame tala yelun. When to a mighty mapun, fame tala yelun.
Tu peux nous parler un peu, toi, des résistances qu'il y a eu en Europe et du fait que peut-être nous, on a l'impression que, au niveau des lois, on se défend un peu. En plus, il y a une densité de population qui n'est pas la même qu'en Argentine. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu là-dessus ?
Je vais revenir un tout petit peu sur ce que vient dit Grégory, justement pour resituer la chose, savoir si ce modèle il est exportable en Europe. L'industrie des hydrocarbures non conventionnels, c'est une industrie à très court terme. C'est-à-dire qu'une fois que le gisement il a été exploité, une fois que la roche a été complètement essorée, il n'y a plus rien à en sortir. Donc du coup, on arrête, on rebouche le puits, on injecte un peu de ciment à l'intérieur, et puis basta. Donc que deviennent les travailleurs ? Donc on a une vision aujourd'hui, avec l'expérience américaine, on sait que un puits, enfin un forage, c'est exploitable entre 2 et 10 ans, grand maximum. Et donc du coup, c'est complètement chimérique. C'est-à-dire que c'est vrai qu'en Argentine, il y a un afflux de travailleurs parce que c'est le boom en ce moment, mais ce boom, il va descendre, et que donc ces travailleurs, dans 10 ans, il n'y aura plus de boulot pour eux. L'autre chose aussi qui est importante, c'est qu'en fait, c'est une mise à part les activités connexes de transport et de construction d'infrastructures. Une fois qu'on a construit la plateforme et les routes qui vont autour, il n'y a plus besoin de ces travailleurs-là. Et que pour exploiter un puits, une fois qu'on a fait le fracking, il y a besoin de 2 ingénieurs pour surveiller la machine, c'est tout. Donc en fait, il y a quelque chose de complètement illusoire de penser que c'est une industrie qui va permettre de garantir du boulot pour les générations à venir. Ça, c'est complètement illusoire. En quoi le modèle il est exportable en Europe ? De plusieurs manières. D'une part, il faut rendre la chose socialement acceptable. Rendre la chose socialement acceptable, c'est faire ce qui se produit en Argentine et un peu ailleurs, alors moins aux États-Unis, c'est de se débrouiller pour embaucher dans les entreprises pétrolières, dans les services pétroliers, d'embaucher un homme par famille et donc du coup d'acheter de la paix sociale. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est ce qui est possible aux États-Unis, qui ne l'est pas encore en Europe et en France, c'est de faire en quelque sorte que les familles et les collectivités en surface soient intéressées par la rente pétrolière. En France, on a imaginé, on est en train de réviser le code minier. Alors c'est un peu un serpent de mer. Le gouvernement Sarkozy avait mis en place une commission pour travailler sur ce texte, qui est le code minier, est complètement pas du tout adapté à l'industrie extractive d'aujourd'hui. Il date de Napoléon, il a été toileté un petit peu au 19e et au début du 20e, notamment pour faciliter l'entreprise du charbon, mais il ne correspond pas du tout à l'industrie extractive telle qu'on la pratique aujourd'hui, avec des technologies complètement différentes. Donc du coup, on cherche à réviser ce code minier. La commission Thuot, qui a été mise en place par le gouvernement Sarkozy, présidée par un conseiller d'État, M. Thuot, avait imaginé une disposition qui est complètement cinglée pour justement, entre guillemets, acheter la paix sociale. Aujourd'hui, en France, ce qui est dans les sous-sols appartient à l'État. Donc quand le gouvernement, l'administration décide de mettre en place une concession minière, quel que soit d'ailleurs le type de mine, ben on lance un appel d'offres, c'est la loi européenne, il faut mettre ça en concurrence. Et puis l'entreprise la mieux disante va négocier avec l'administration centrale, avec le gouvernement, ce qu'on appelle la rente des mines, la rente pétrolière. La disposition qui était proposée dans le texte de la commission Thuot, c'était d'autoriser les collectivités territoriales à négocier une partie de la rente avec les entreprises détentrices de titres miniers. Alors la pratique qu'on sait, c'est que c'est un grand classique en Argentine, mais c'est un classique aussi en Europe, on l'a vu dans les pays d'Europe de l'Est, la collectivité n'a pas les moyens, la mairie n'a pas les moyens de construire une crèche ou deux terrains de tennis ou un stade de foot ou une piscine, et ben c'est l'entreprise qui va financer la crèche, le stade ou les deux terrains de tennis. Ben là, avec cette disposition introduite dans le code minier, ben il n'y a même plus besoin de corruption, entre guillemets, c'est légal, la collectivité peut obtenir une partie de la rente de ce qui a été produit par l'entreprise minière. Ce dispositif a été sorti du texte. Le texte aujourd'hui, il y a une nouvelle proposition de loi qui a été déposée par des parlementaires, des députés socialistes, qui n'a pas passé le cap de la commission des lois, mais n'empêche que le texte existe et qu'il y a une disposition à l'intérieur que je vais vous lire intégralement. Ça fait deux lignes, vous allez comprendre où ils veulent en venir. La détention d'un titre minier n'est pas nécessaire pour l'exploration minière lorsqu'elle est réalisée par le propriétaire de la surface après déclaration à l'autorité administrative compétente de l'État. Ça veut dire qu'un paysan qui découvre qu'aujourd'hui, sous ses pieds, il y a un gisement d'hydrocarbures non conventionnels ou d'autres choses...
Il peut l'exploiter.
Il peut négocier avec l'entreprise pétrolière, vendre son terrain à l'entreprise pétrolière, et donc du coup, le forage se fera. Il va donc y avoir, si cette disposition passait dans la révision du code minier, il va y avoir une spéculation foncière sur toutes les terres agricoles aujourd'hui, mais dans les sous-sols, il y a des réserves, un gisement, quel qu'elle soit, hydrocarbures ou autre chose, et donc du coup... on va se retrouver dans une situation proche de celle des États-Unis. C'est en fait le modèle américain qui s'impose à nous.
Parce que, ouais, ce dont on n'a pas... Enfin, on en parle un peu, mais c'est que ça implique une artificialisation des terres et une bétonisation qui est sans retour, en fait.
Absolument. De toute façon, bon, alors, il y a, je dirais, deux cas de figure qui sont vraiment à l'extrême, vraiment opposés l'une à l'autre dans l'activité agricole en France et en Europe. D'un côté... Il y a des gros exploitants agricoles qui vivent grâce d'ailleurs aux subventions européennes et avec des produits de merde, de maïs transgénique et tout ce qu'on veut, et l'industrie agricole intensive, mais qui est une industrie en perte de vitesse, une activité en perte de vitesse. Rien de plus facile pour un paysan que de se dire « mes enfants ne reprendront pas la terre », ce qui est un grand classique. Hein. Il y a peu de paysans dont les enfants deviennent paysans à leur tour. Et donc du coup, de se dire « je vends ou je loue ma terre à une entreprise gazière ou pétrolière ou autre chose. » Et puis, à l'autre extrémité du spectre, ben, il y a ces paysans qui commencent à réfléchir à une agriculture respectueuse de l'environnement en circuit court. Mais là aussi, il y a la pression foncière, elle est importante. Donc, quand il y a des collectivités qui mettent en place des jeunes agriculteurs, c'est parce que la collectivité est propriétaire de la terre. Les jeunes agriculteurs, aujourd'hui, n'ont pas les moyens d'investir dans les terres. Et Dieu sait si, en France, il y a des terres en friche et donc des choses à développer. Donc, on est dans une situation complètement schizophrène, en fait. Et que c'est insensé, en fait, c'est au nom de la croissance. Je prends un exemple très précis, pas très loin d'ici. C'était un permis, enfin c'est un permis d'exploration d'hydrocarbures détenu par une petite boîte américaine à Saint-Griède dans le Béarn. Ce permis, la période de ce permis était terminée et donc l'entreprise négocie, enfin demande la prolongation du permis d'exploration. L'administration, ministre de l'Environnement et Bercy, refuse la prolongation au nom d'un trouble à l'ordre public. On s'est posé la question pourquoi. Et on s'est dit qu'en fait, le juge administratif, il a fait exactement la même chose que son collègue au moment de la décision sur Notre-Dame-des-Landes. C'est une décision politique avec une pression qui vient de beaucoup plus haut. Aujourd'hui, il y a une charte de l'environnement qui a valeur constitutionnelle. Eh ben, on préfère la croissance est supérieure, l'intérêt général en termes de croissance est supérieur à l'environnement. Donc du coup, eh ben, le juge administratif a cassé la décision des administrations centrales et donc impose à l'administration de revenir sur sa décision et d'autoriser la prolongation de ce titre minier. Avec une ambiguïté, la loi Jacob, votée sous la droite, interdit la fracturation hydraulique, mais n'interdit pas les gaz et huiles de schiste. Et que mieux, la loi prévoit dans son article 2 une commission d'évaluation chargée d'examiner le bien fondé de techniques alternatives à la fracturation hydraulique. Donc ça veut dire que la porte est ouverte à l'exploitation, enfin l'exploration et l'exploitation, avec d'autres techniques que celles de la fracturation hydraulique.
Qui existent ?
Alors, la technique de la fracturation hydraulique, ça ne veut rien dire. Ça a un non-sens, ça n'a pas de valeur juridique. La fracturation hydraulique, c'est un terme générique pour désigner la manière dont on injecte de l'eau avec des produits chimiques dans les sous-sols. Mais on peut tout à fait appeler cette technique autrement, et du coup, on passe à travers les mailles de la loi. Par exemple, aujourd'hui, les chercheurs dans l'industrie pétrolière et gazière parlent de stimulation horizontale de la roche. Le terme est joli d'un point de vue poétique, mais ça veut dire exactement la même chose que la fracturation hydraulique. Alors il y a une technique, il y a plusieurs possibilités, enfin, il y a les chercheurs, notamment américains et australiens, néo-zélandais, canadiens, ont envisagé des techniques alternatives au fracking, alors des trucs complètement loufoques, genre on va réhabiliter les micro-charges nucléaires dont on s'est servi pour percer le tunnel du Mont-Blanc ou pour casser les bunkers sur la Manche pour aller fraquer. Alors bien évidemment, ça, il en est hors de question. Il y en a qui ont imaginé de fraquer à l'arc électrique. Alors quand on sait la flotte dans les couches karstiques, généralement, enfin moi je suis du Languedoc, et que c'est vrai que ce sont des couches karstiques, vraisemblablement il y a du gaz de schiste, un minimum 1500 mètres de profondeur, mais il y a beaucoup d'eau dans ces roches. Donc passer un arc électrique là-dedans, bonjour les dégâts. Et puis il y a une petite start-up américaine, E-Corp, qui a mis au point, qui a déposé un brevet, d'une technique de fracturation à l'heptafluoropropane. C'est donc un mélange d'heptane et de propane, de fluor et de propane. Le propane est un gaz inflammable, sauf que mélangé, enfin, de transformer en heptafluoropropane, il n'est plus inflammable et il a un pouvoir de compression-décompression extrêmement rapide et violent. Donc du coup, l'idée, c'est de produire de l'heptafluoropropane, de l'acheminer sur les sites de fracturation et d'injecter à très forte pression dans les puits. Sauf que cette technique, un, elle a été expérimentée aux États-Unis, mais on n'a pas les comptes rendus de cette expérimentation, et d'un. De deux, la production d'heptafluoropropane est extrêmement chère parce que l'heptane en lui-même est un gaz rare. On sait qu'avec la technique de fracturation hydraulique classique, eh bien, quand on investit 1 dollar, on va récupérer 1 dollar 20, donc c'est pas d'une rentabilité énorme. Donc avec l'heptafluoropropane, on ne sait pas ce que ça va donner, mais cette petite boîte américaine, qui n'a rien à voir avec les transnationales qu'on a décrites tout à l'heure, Total, Chevron et autres, c'est une petite société, qui est une société de service, qui n'est pas une entreprise gazière, vient d'acheter 100% d'un permis d'exploration d'hydrocarbures non conventionnels en Suisse, dans le canton de Vaud. Et on se demande pourquoi E-Corp, cette petite boîte américaine, débarque en Suisse, chez nous, dans le canton de Vaud, vraisemblablement pour expérimenter, dans une configuration géologique très particulière et proche de celle du sud de la France, expérimenter cette technique à l'heptafluoropropane dont on ne connaît pas les connaissances, enfin l'impact sur l'environnement.
Et puis, quelle que soit la technique, il s'agit toujours de prélever des sources d'énergie pour pouvoir produire plus, parce qu'après, il va falloir l'écouler, ce pétrole et ce gaz de schiste. Donc, il va bien falloir l'utiliser et le réinjecter dans l'industrie, j'imagine.
En fait, on a du mal à comprendre la logique qui sous-tend tout ça, parce que tu disais que c'était des gisements à courte durée, enfin des production à courte durée, du coup, au niveau de l'indépendance énergétique, c'est bidon, en fait, quelque part. Deuxièmement, c'est des techniques qui sont très chères, et du coup, ça rend le produit très peu rentable. Du coup, on a du mal à comprendre qu'est-ce qui fait qu'il y a un tel engouement pour ces techniques-là et ces énergies-là, en fait.
Si ce n'est pour produire de la technique ?
Pour spéculer sur les hydrocarbures et spéculer sur des brevets. Il y a un premier point qui est important, c'est qu'en fait, cette espèce de course à l'échalote aux hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels est totalement en contradiction avec l'accord de Paris négocié l'année dernière pendant la COP21. Aujourd'hui, tous les experts du GIEC et d'ailleurs sont d'accord pour dire que il faudrait à partir de maintenant laisser les hydrocarbures conventionnels ou non conventionnels dans les sous-sols si on pourrait pour espérer de renverser cette histoire de réchauffement climatique. Or, ce qui est complètement fou, c'est que chacun des États membres de la conférence de la COP, hein, de la conférence des parties, ont fait une déclaration d'intention, d'un engagement de réduction de leur émission de gaz à effet de serre. Et que les pays qui sont fortement producteurs d'hydrocarbures, c'est le cas de l'Argentine, eh ben, s'engagent à réduire leur gaz à effet de serre sans diminuer leur industrie. Or, l'industrie du pétrole et du gaz, et en particulier du gaz de schiste, est une industrie à très forte émission de gaz à effet de serre. Donc il y a quelque chose de complètement paradoxal, et en fait, ils mentent quand ils font leur engagement, ils savent pertinemment qu'ils ne pourront pas tenir leur engagement. La problématique, elle est que les investisseurs et les industriels raisonnent sur le très court terme. Alors d'une part, ce que je disais tout à l'heure, il faut tendre à la souveraineté énergétique et donc d'être moins dépendant, pour nous, de Gazprom, hein, du gaz russe. Avec l'arrivée de Fillon au pouvoir, peut-être que les choses vont changer, mais c'est lui qui avait signé d'ailleurs ce hub gazier pour alimenter l'Europe du Nord dans le gaz russe. Donc là-dessus, lui, les gouvernements de droite et les gouvernements libéraux n'ont pas d'état d'âme. Les gouvernements sociaux-libéraux, les sociotraites qui nous gouvernent aujourd'hui n'ont pas d'état d'âme là-dessus. Je rappelle que Montebourg, au nom de la croissance, quand il était ministre du redressement productif, bonjour le titre, il a délivré des permis miniers, d'exploration minière, de métaux précieux et de terres rares. Donc on est dans une vision à très court terme, il faut satisfaire les marchés financiers, il faut satisfaire les exigences des actionnaires de ces entreprises, les petits comme les gros d'ailleurs, les fonds de pension américains comme les petits porteurs des portefeuilles de nos livrets de caisse d'épargne, hein. Et que donc du coup les considérations environnementales et sociales passent au-delà. Moi ce qui me frappe c'est de m'apercevoir qu'en fait les gens qui raisonnent ces modèles-là, qui mettent en place ces modèles-là, ont une vision égale à celle de leur vie. C'est-à-dire que ce qui va se passer une fois qu'ils ont disparu de la planète, une fois qu'on les aura enterrés, ils s'en foutent complètement.
En fait, on a tout un système qui est construit et basé sur le pétrole et qui est notamment situé dans les pays riches, à savoir l'Europe et les États-Unis principalement, qui est complètement à bout de souffle parce que les réserves s'épuisent, mais qui ne veut pas, surtout pas se remettre en question et continue à chercher d'autres moyens de continuer la course, quoi. Il y a quelque chose, parce que en fait tu parlais aussi tout à l'heure hors antenne il y a cette idée d'indépendance énergétique de l'Argentine au niveau de ces gisements-là, mais il y a aussi une foule de sociétés étrangères qui débarquent là pour extraire cette énergie-là et l'exporter. Il y a aussi quelque chose où le gouvernement argentin dit clairement qu'ils veulent se tourner vers une économie exportatrice. Donc il y a quelque chose de qui existe depuis des siècles, en fait, depuis la colonisation, le centre riche de la planète envoie ses entreprises extraire son énergie pour continuer à gaspiller gaiement son énergie, malgré le fait qu'on arrive complètement à la fin de ce système et qu'on... Voilà, on va dans le mur, quoi.
Une fois, on va dans le mur, si un jour on abandonne les hydrocarbures, c'est pour donc développer d'autres sources énergétiques. Alors, dans les engagements d'Argentine, par exemple, le nucléaire est une source énergétique propre, puisqu'elle ne développe pas, il n'y a pas d'émissions de gaz à effet de serre. C'est d'ailleurs un faux raisonnement, parce que pour construire une centrale nucléaire et l'entretenir, il faut beaucoup d'énergie, et donc du coup, il y a forcément émissions de gaz à effet de serre.
Et pour extraire la matière première aussi.
Et il faut extraire la matière première, il faut la trouver, la matière première. C'est des enjeux géostratégiques qui sont extrêmement importants, hein, l'uranium. Mais je prends aussi l'exemple du Brésil. Au Brésil, ils ont fait comme en Chine, ils sont en train de construire un énorme barrage dans l'état de Belo Monte, au nord du Brésil, en rasant la forêt primaire, l'Amazonie, et puis effectivement en déportant quelques peuplades, quelques communautés indigènes, indiennes qui sont sur place. Donc du coup, on se dit on va abandonner ou tenter d'abandonner les hydrocarbures, mais pour mettre en place des moyens de production énergétique qui sont tout aussi émetteurs de gaz à effet de serre ou avec des dommages collatéraux environnementaux colossaux. Par contre, ce dont on ne parle pas, par exemple, c'est de l'obsolescence programmée. Ce dont on ne parle pas, c'est de la manière dont on gaspille de l'énergie pour l'éclairage urbain. Alors que dans les rues, entre 2h du matin et 5h du matin, il n'y a plus personne. Et donc, du coup, on continue à éclairer. Ce dont on ne parle pas, c'est de la publicité, par exemple. Aujourd'hui, ces écrans géants qu'on voit dans le métro parisien, consomment en électricité l'équivalent de 150 foyers africains. Donc voilà, il y a une espèce de politique de l'autruche, en fait. On dit oui, alors les discours de François Hollande ou de Ségolène Royal ou d'autres pendant l'accord de Paris à la COP ou celui du roi du Maroc la semaine dernière, pavé de bonnes intentions, mais surtout il ne faut pas froisser les industriels. Et surtout il ne faut pas se mettre à dos les industriels et que quand... Dans les mouvements alternatifs qui dénoncent ces politiques-là, on dit mais la transition énergétique, c'est d'abord en consommer moins, revoir complètement notre mode de consommation. Moi, je suis pas du tout à me flageller, me dire on va revenir à la bougie, c'est pas du tout ça. Mais je trouve insupportable de faire en quelque sorte que les consommateurs d'énergie que nous sommes, quel que soit notre milieu socio-professionnel, de se flageller. Effectivement, moi, j'éteins ma lumière quand je quitte ma salle de bain, j'éteins la lumière. Mais c'est pas nous qui sommes les principaux responsables de ça. Ce sont les industriels, notamment de l'agro-industrie. Alors tout le monde rigole en disant c'est le pet des vaches, le méthane émis par les vaches. Qui fait que le climat se réchauffe, mais c'est pas les 3 bovins ou les 15 vaches du plateau du Larzac ou du Limousin, c'est l'agro-industrie en Argentine ou au Brésil par exemple, ou aux États-Unis de manière très très intensive et très agressive, qui fait qu'effectivement les bovins sont effectivement responsables. Donc là il y a vraiment à raisonner un mode de consommation complètement différent et qu'il faut renverser la tendance très très vite, parce que sinon on n'y arrivera jamais.
Toutes ces industries sur, j'insiste un peu là-dessus, mais toutes ces industries sur lesquelles nous on dépend, enfin en fait tu parlais tout à l'heure du fait qu'on importe du gaz de schiste et en France et qu'on utilise ce gaz là donc il y a une hypocrisie aussi là,
il y a complètement une hypocrisie, mais c'est un choix politique. Moi je suis pas abonné à EDF, je suis abonné à Enercoop. Donc j'ai choisi mon modèle de consommation énergétique différent de celui qui nous est imposé par les transnationales et par l'État. Et donc du coup, je consomme une électricité propre, enfin j'espère le plus propre possible. C'est pas facile à comprendre, c'est pas facile à surveiller, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'il n'y a pas de nucléaire dans l'énergie que je dépense moi. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est aussi l'aspect, je dirais, sociologique des centres de décision. Les modèles de consommation, de production et de consommation d'énergie sont décidés par le haut. Ce sont des programmes politiques dans lesquels les industriels dictent leurs lois. Or, on s'aperçoit aujourd'hui qu'on peut tout à fait mettre en place des unités de production d'énergie renouvelable décidées par les citoyens et localement avec de l'investissement citoyen. Enercoop, énergie citoyenne, développe ce petit de choses, énergie partagée, et ça marche de mieux en mieux. Et là, il y a, je crois, une vraie alternative. Il ne s'agit pas non plus de se dire nous allons produire ce dont on a besoin et puis ce qui se passe à côté, on s'en fout. C'est vrai que une des bonnes choses dans l'Union européenne, c'est le principe de solidarité énergétique. Donc effectivement, quand des pays sont en baisse de production, c'est le cas de l'Espagne par exemple, on doit être capable de leur en fournir. Mais quel type d'énergie? Et pourquoi faire? Si c'est pour alimenter les serres de production de tomates et de fraises hors sol dans le sud de l'Espagne, c'est pas pour ça. On n'a pas besoin de leur fournir de l'énergie pour ça. Donc il faut vraiment avoir cette réflexion, à la fois très localement, mais aussi globalement, au niveau d'un territoire continental, sur nos modèles de production et de consommation de l'énergie. Mais avant tout, c'est pas les consommateurs lambda, les foyers et les familles, c'est d'abord les industriels qu'il faut mettre à l'index.
Ce qui pose aussi d'autres questions, tout ça, notamment l'explosion des champs d'éoliennes, les lignes de tension pour ce que tu appelles la solidarité énergétique entre les pays, qui crée aussi d'autres problèmes. Mais bon, après, ça, c'est encore une autre question. On va peut-être pas s'enfoncer là-dedans.
Tu as raison. Moi, je dénonce. Je suis pour l'éolien, je suis contre le modèle industriel de l'éolien. Ouais. Et que la solidarité, c'est pas forcément le fait de produire ici pour acheminer via des lignes à haute tension en Espagne. C'est aussi faire des transferts de savoir et de compétences. Je veux dire, une des choses chose dont on commence à discuter à l'international, c'est que ce qu'on développe aujourd'hui avec Énergie Partagée et Enercoop, ben ce modèle-là de production énergétique, donc dont les décisions reviennent aux citoyens, eh ben ça peut s'exporter ailleurs. Ça peut, au contraire, il faut inciter non seulement d'autres pays de l'Union européenne, mais les pays émergents, enfin les pays du Sud, aussi à développer ce type de modèle.
Et pour finir, vous nous parliez donc à la base de cet ouvrage-là, la passion du schiste, capitalisme, démocratie, environnement en Argentine. C'est de là qu'on est parti tout à l'heure. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment il est reçu, ce bouquin ? Est-ce que vous l'avez présenté déjà à différents endroits ? Est-ce que les gens sont en attente de ça ? Ou est-ce qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe à propos du gaz de schiste ? Là-bas et ici ?
Alors, il y a d'abord un phénomène qui joue dans toutes les mobilisations, que ce soit sur les hydrocarbures non conventionnels ou ailleurs, ou sur d'autres sujets, c'est « pas dans mon jardin hein, »,« not in my backyard ». C'est-à-dire qu'effectivement, si le foreur il tente de forer sur ma collectivité, sur mon territoire, ça n'en veut pas. Par contre, si le foreur il est installé ailleurs, et tant qu'on a du gaz qui arrive dans notre cuisinière ou gazinière, ben, on fait la politique de l'autruche. Les gens sont très surpris de découvrir que les premiers méthaniers américains arrivent et que dans les méthaniers il y a du méthane et que c'est forcément du méthane qui a été extrait avec fracturation hydraulique, sinon ça serait en dessous des quotas de production américaine. Les gens sont très surpris aussi de découvrir que l'industrie est développée aussi fortement dans un pays comme l'Argentine. Il y a une relation affective très forte entre l'Argentine et l'Union européenne, et de savoir qu'en Argentine on pratique le fracking de cette manière-là, c'est pour beaucoup des gens qui nous écoutent quand on vient parler du bouquin, découvrent complètement cette situation et sont assez surpris.
Maintenant, alors que c'était déjà le cas pour du pétrole, en fait, c'était déjà l'origine.
Les gens sont très surpris de découvrir aussi, par exemple, parce que à travers ce livre, on en profite aussi pour expliquer le côté complètement non efficace d'un certain nombre de dispositions auxquelles nous sommes pourtant attachés, par exemple la création de zones naturelles protégées par des conventions internationales, par les Nations Unies. Mais ce sont des textes qui sont non contraignants. C'est-à-dire qu'en Argentine, il y a un parc naturel, zone protégée, inscrite dans le patrimoine, enfin dans la liste des zones protégées, dans les déserts naturels protégés, dans lequel on a exploité, c'est une entreprise chinoise qui a exploité du conventionnel, et puis il y a eu l'équivalent d'un épisode Sovnol, il y a eu une espèce de mini-tornade avec des pluies extrêmement fortes pendant un temps relativement long. Ça a mis un bordel insensé sur ce champ de pétrole conventionnel, des têtes de puits encassées, les Chinois ils sont partis, ils ont tout laissé en l'état. Et donc, pour aller les retrouver, les Chinois, les gens commencent à comprendre aujourd'hui qu'en fait, la vraie campagne sur laquelle on a intérêt à s'engager là, c'est la responsabilité sociale et environnementale des entreprises. Elles commettent des dégâts environnementaux, enfin, les entreprises gazières et pétrolières, elles commettent des dégâts environnementaux colossaux, tout le monde s'en fout, elles partent, elles laissent, elles bouchent le puits vaguement et elles partent. Mais c'est pareil avec d'autres types d'industries extractives. J'ai enquêté pendant longtemps sur les problèmes de l'eau en Tunisie. En Tunisie, il n'y a plus d'eau potable à cause du phosphate. Donc effectivement, c'est le septième pays producteur du phosphate. Donc on s'est servi du phosphate tunisien pour fabriquer nos saloperies d'engrais, des saloperies d'engrais qu'on vient répandre partout sur les terres agricoles en Europe. Mais aujourd'hui, il n'y a plus d'eau potable en Tunisie. À qui ça profite ? À Veolia et à Nestlé, qui sont ravis de produire de l'eau de source soi-disant propre et bonne à la consommation, et donc de la dispenser dans tous les foyers tunisiens.
D'ailleurs, juste une petite parenthèse, vous pouvez faire un petit tour sur le site internet de Total qui nous présente une formidable vidéo sur la médiation en Bolivie qu'ils font dans les terres où ils extraient du pétrole et du gaz, et où on voit effectivement une pauvre famille qui jusque-là n'avait pas accès à l'eau potable et qui maintenant ouvre le robinet et a de l'eau qui coule juste devant chez eux, donc c'est formidable. Ils ont même pu aller chercher l'eau potable.
Ils mettent pas un briquet devant le...
L'image le montre pas.
Non, mais ce qu'il y a, c'est qu'en fait, à qui profite le crime sinon aux transnationales ? Quand on a vu pendant la COP de Paris, la COP 21, comment des boîtes qui sont vraiment des sales boîtes, je veux dire GDF Suez, on peut pas dire que ça soit une boîte qui ait une politique environnementale qui nous corresponde, comment ils récupèrent le réchauffement climatique pour faire leur business, mais c'est complètement insensé. Et que moi, je vois dans la région dans laquelle je vis, je suis dans le nord du Languedoc, là, dans le nord de l'Hérault, il y a un passage en force de l'éolien industriel qui a réussi, avec un programme insensé, donc les éoliennes fleurissent de partout, ça ne profite un petit peu aux collectivités territoriales, puisqu'elle récupère une partie en soi-disant taxe professionnelle, mais ça profite surtout aux investisseurs.
Ouais. On va finir là-dessus.
Merci de nous avoir accueillis.
Ouais, merci à vous d'être venus. Ouais, on rappelle peut-être les références du bouquin. Donc, c'est La Passion du Schiste, Capitalisme, Démocratie, Environnement en Argentine. C'est un ouvrage collectif co-écrit par Vincent Espagne, Grégory Lassalle et un groupe de chercheurs de l'Observatorio Petrolero del Sur. Voilà, disponible dans toutes les bonnes librairies. Interne et externe, fut le moyen le plus important pour l'accumulation première de capitaux qui, depuis le Moyen-Âge, rendit possible l'apparition d'une nouvelle étape historique dans l'évolution économique mondiale. À mesure que s'étendait l'économie planétaire, l'inégalité des échanges concernait de plus en plus de couches sociales et de pays de la planète. Mandel fait remarquer que cette masse gigantesque de capitaux créa un climat favorable aux investissements en Europe, stimula l'esprit d'entreprise et finança directement la création de manufactures qui donnèrent une grande impulsion à la révolution industrielle. Mais, en même temps, la formidable concentration internationale de la richesse au bénéfice de l'Europe empêcha les pays soumis au pillage d'accéder à l'accumulation d'un capital industriel. Les pays d'Europe purent engendrer le capitalisme moderne en profitant en grande partie de la dépossession des peuples indigènes d'Amérique. Au vol des trésors accumulés succéda l'exploitation systématique, dans les mines et les gisements, du travail forcé des indigènes et des esclaves noirs arrachés à l'Afrique par les trafiquants. Finalement, même de nos jours, l'existence de centres riches du capitalisme ne peut s'expliquer sans l'existence de périphéries pauvres et assujetties, ceux-là et celles-ci faisant partie du même système. Les régions les plus marquées aujourd'hui par le sous-développement et la pauvreté sont celles qui, dans le passé, eurent les liens les plus étroits avec la métropole et connurent des périodes de prospérité. Elles furent les principales productrices de biens exportés vers l'Europe ou, plus tard, vers les États-Unis et des sources intarissables pour le capital. La métropole les abandonna quand, pour une raison ou pour une autre, les affaires déclinèrent. Extrait de « Les veines ouvertes de l'Amérique latine », livre écrit par Eduardo Galeano et publié en 1971.
Patagonia, despierta. El sur, Patagonia rebelde se levanta. Las peonadas gritan, queremos libertad. Hermandad. Pero los dueños de toda la tierra les declararon una guerra y los gauchos dejaron de soñar. A toda Habana, coronel no más, a toda Habana. Thank you.
Pour plus d'infos sur le développement des hydrocarbures non conventionnels en Argentine, vous pouvez bien sûr acheter le livre dont on a parlé, mais aussi vous procurer le documentaire Terre de Schiste, réalisé par Grégory Lassalle. Sur le net, vous pouvez trouver des infos en espagnol sur le site de l'OPSUR, O-P-S-U-R. Et en ce qui concerne les énergies issues du schiste en Europe, vous pouvez consulter le site internet de Frac Free Europe. Musicalement et dans l'ordre, vous avez entendu Campesino de Atahualpa Yupanqui, Malditas Petroleras de Puelcona, Chemuama de Karen Wenul, Canción del Carretero de Atahualpa Yupanqui et Patagonia Rebelde de Quinteto Negro La Boca et Malena D'Alessio que vous entendez en fond. À suivre, Latino America Morena. Et enfin, un grand merci à Mélissa et Blandine pour leur participation active à la réalisation de cet entretien. Patagónica se siente, las voces que se escuchan son del sur del continente, vienen atravesando casi un siglo ya de historia, trayendo atragantado ese rugido por victoria inconclusa ensangrentada, fusilamiento en masa, la lucha no es obligada, masacre contra miles, rebeldes contra serviles, las tierras son de los mapuches usurpadas por élites estériles, ya basta, dijeron y aclamaron la vida, no se suba más, fuego lento iba cocinándose la gesta, reuniones clandestinas, discusiones y traiciones, protestas, asambleas, intimidaciones, el enemigo es grande, es casi un monstruo omnipotente, ejércitos salvajes, sanguinarios, traicionando gente, allí donde la toma de conciencia nos da cita, donde mueren los miedos y la historia resucita, allí donde la indignación expulsa los lamentos, donde tiemblan patrones, tiemblan los cimientos, la sangre patagónica solo será vengada, cuando la justicia truene y arda como el llamará. ¡Patagonia!